Et on passe tout de suite au marché cette semaine. Bon, pas mal, mais un peu chaud. C'est pas non plus la catastrophe. On s'est dit, oh là là, ça baisse un peu. Alors, l'événement de la semaine, c'était le chiffre de l'inflation aux États-Unis. On attendait un chiffre inférieur. On a été à 3,5%. Si on enlève l'énergie et l'alimentation, c'était 3,8%. Donc, les marchés ont dit, bah voilà, c'est clair, il va pas y avoir la baisse des taux qu'on attendait aux États-Unis en juin. Elle aura pas lieu. Puis certains commencent à dire, il y aura même pas de baisse des taux aux États-Unis en 2024. Juste avant de passer la parole au gérant, vous continuez à dire qu'il n'y a pas d'inflation, même s'il y a 3,5% d'inflation aux États-Unis. Expliquez.
Pourquoi ? Parce que effectivement, l'inflation, effectivement, c'est un décalage entre l'offre et la demande. Et ce qui est intéressant dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est que l'excès de demande, beaucoup plus d'ailleurs que dans les prix, il est dans le déficit extérieur. C'est-à-dire que vous avez un mécanisme maintenant qui font que les pays qui sont en déficit extérieur sont les pays qui autrefois étaient en situation d'inflation. Et donc les corrections à mon avis, ne peuvent plus passer par la politique monétaire, mais par une gestion de la demande au travers, justement, de mécanismes des déficits jumeaux.
D'accord, mais les prix continuent à augmenter. Il y a de l'inflation. Il y a bien un chiffre. Là, on peut pas nier les 3,5% d'inflation.
Oui,
c'est ça que j'essaye de comprendre.
Non, mais par rapport au discours.
Expliquez pour des esprits simples.
Oui, pour des esprits simples. Je les vois bien, les chiffres. Il n'y a pas de problème.
Ben oui.
Le véritable enjeu, c'est est-ce que c'est durable, ce qui est la définition de l'inflation? Est-ce que c'est auto-entretenu? Ou est-ce que c'est temporaire? Et est-ce que ça correspond effectivement à une séquence de certains prix très, très, très bien ciblés?
Donc vous dites c'est temporaire et ça va décrocher.
Décrocher. C'est d'ailleurs ce que disaient les banques.
Si l'économie continue à être aussi forte, avec un emploi qui est aussi fort, avec des salaires qui continuent à augmenter, les prix vont continuer à augmenter?
Non, parce que les entreprises, encore une fois, et les ménages se procurent leurs ressources de plus en plus à l'étranger. Vous avez quand même les salaires qui augmentent, ce sont des salaires qui augmentent aux États-Unis.
Oui.
Mais au niveau mondial, le salaire est en train de baisser.
D'accord.
Vous avez une introduction dans l'activité économique mondiale, notamment de l'Inde, qui est en train de faire pression sur les salaires. Et donc d'ici mais un an, vous allez commencer à voir la substitution progressive des produits indiens aux produits chinois, avec comme conséquence que vous allez avoir une baisse des prix dans le pays.
D'accord,
qui est le pays qui est le débouché.
Emplois de proximité, là où la hausse des salaires a explosé aux États-Unis, vous n'allez pas pouvoir.
Ah oui, ça c'est clair. Ça, je suis assez d'accord. Et donc après, ça pose un problème qui est un problème de répartition au sein du pays entre les pays, les secteurs qui sont en concurrence et qui vont être obligés de se soumettre à des prix indiens et les secteurs qui échappent totalement à la concurrence et qui vont en profiter pour essayer de gagner des rentes.
Sébastien Corcia, la bourse est mûre pour une correction ou pas ?
Ça fait longtemps qu'elle est mûre pour une correction,
ouais,
en fait.
Et que ça continue à monter.
Alors, attention, ça ne monte pas exactement comme on peut imaginer. Effectivement, si vous regardez le thermomètre, le CAC 40, effectivement,
Il
se tient bien. Oui, mais il faut regarder derrière, en fait, la composition, à la fois la composition, mais qu'est-ce qui monte ou qu'est-ce qui ne monte plus, par exemple. Et c'est intéressant de regarder de comprendre qu'en novembre-décembre, la bourse avait beaucoup monté sur ses anticipations de baisse des taux 6 à 7. Hein. Mmh. C'est-à-dire des anticipations qui allaient se déclencher immédiatement, mars, régulièrement et de manière forte, c'est-à-dire 150 points de base. La bourse s'est complètement trompée. On est passé de 7 à 3, maintenant 2.
La bourse n'a pas baissé.
Et aujourd'hui, alors la bourse n'a pas baissé, mais attention, elle n'a pas baissé parce qu'elle a masqué cette erreur de jugement, véritablement. Aujourd'hui, la bourse à 15%, elle commence à penser qu'il n'y aura pas de baisse des taux. Hein. Donc elle a masqué cette erreur de jugement en se retournant vers ce qui lui paraissait le plus défensif, c'est-à-dire des valeurs de croissance. Si elle avait été très optimiste, la bourse, sur la croissance et la désinflation, elle serait revenue sur les valeurs cycliques, ce qui n'a pas été le cas. Elle est allée se mettre sur des valeurs de croissance sur un nombre très limité, vous le savez.
Elle a quand même globalement
monté. Oui, mais il y a cet effet surconcentration. Et regardez les marqueurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'or, le pétrole quand même, mais surtout, il y a une donnée qui est intéressante, c'est la taille et les flux vers les SICAV monétaires aux États-Unis. Pendant que vous me dites que la bourse monte, moi je vous dis qu'il n'y a jamais eu autant d'argent qui va se planquer, c'est le mot, sur les SICAV monétaires aux États-Unis. Des gens très intelligents.
Donc ça veut dire que ça peut alimenter une nouvelle vague de hausse.
Oui, ça peut dire aussi que c'est des gens qui n'ont pas participé à la hausse et quelque part qui n'y croient pas.
Bah oui.
Ils n'y croient pas parce que
c'est des munitions pour une prochaine.
Alors ça sera soit des munitions pour une prochaine phase de hausse, on l'espère, soit c'est de l'argent qui est tenu là parce qu'à 5%, surtout si on vous dit que finalement les taux ne vont pas baisser, et de l'argent dont le gouvernement américain a fortement besoin parce qu'à coup de 100 milliards de dettes supplémentaires tous les 30 jours, pour venir au premier sujet, il faut financer cette dette à court terme et à long terme. Probablement un moment un peu difficile, surtout si on y rajoute un environnement géopolitique qui, quand même, avouons-le, n'est pas du tout intégré par les marchés. Et ce temps.
Enfin, il est intégré par le pétrole essentiellement. Alice.
Deux points. D'abord, le premier, c'est que pour moi, on est sur un marché haussier, donc d'avoir une respiration ou un moment d'abaissement des marchés.
On parle de correction.
De correction, ça me choque pas et ça peut arriver maintenant, ça peut arriver dans un mois, dans deux mois. De toute façon, on sait jamais vraiment quand ça arrive, sinon ça serait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment en fait la question sur l'inflation. Moi, je pense que l'inflation va décélérer grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui.
L'intelligence artificielle.
Non, mais vraiment, vous avez aujourd'hui des patrons.
Moi, c'est l'intelligence pure.
Oui. C'est différent, mais l'un n'exclut pas l'autre. Mais en tout cas, vous avez le patron d'IBM qui vous dit que maintenant, il faut 2 jours pour faire une campagne marketing, là où avant, il fallait 2 semaines. Vous avez Copilot qui a été lancé par Microsoft améliore la productivité de 50%. C'est colossal.
Non, mais c'est fascinant. Moi, j'utilise tous les jours, c'est fascinant.
Non, mais c'est
incroyable.
Donc, si vous voulez, il va y avoir des tels gains de productivité que, de mon point de vue, ça va diminuer en fait l'inflation. Donc, ça va être très favorable.
Juste une chose pour regarder sur la bourse et rebondir sur ce que dit Alice. L'inflation, il ne faut pas oublier, au début, on s'est beaucoup référé dans les années 70-80, en se disant, l'inflation monte, elle redescend, puis elle repart à la hausse, c'est comme ça qu'elle a été observée. La réalité, c'est que quand les marchés actions immobiliers remontent très très fort, comme ils sont en train de le faire sur le marché actions, vous recréez ce qu'on appelle l'inflation des actifs, et la bourse avait commencé à générer cette inflation des actifs. Avant, l'inflation des actifs, ça permet par exemple à beaucoup d'Américains actuellement de partir plutôt en retraite, parce que leur plan de retraite... ont beaucoup progressé, ce qui fait que le marché de l'emploi est en surtension, ce qui fait qu'il faut augmenter les salaires, et ce qu'on gagne. Donc, le réservoir de l'inflation, il est en train quand même de se réalimenter par ça.
Intéressant. Anne-Sophie ?
Je rappelle quand même que pour l'inflation, on va rapidement, hein, ce qui est quand même central, c'est quand même le prix de l'énergie. Ça, il faut quand même le dire. Et quand on regarde justement la demande, notamment d'électricité avec la transition, on va continuer à avoir des prix de l'énergie qui ne vont pas être ceux qu'on a connus dans le passé, notamment au niveau de l'électricité. Donc même si on va revenir, à mon sens, dès l'année prochaine, à une situation contenue, on ne reviendra pas dans une situation, en tout cas concernant les prix de l'énergie, vraiment bas qu'on a pu le connaître précédemment.
Baisse des taux aux États-Unis ou pas ?
Alors, moi, je pense, on n'était pas sur le scénario de cette année, c'est plutôt en fin d'année ou début d'année 2025, oui, complètement. Ce qui est assez intéressant aux États-Unis, là encore, hein, c'est quand même la croissance économique. Alors moi, je regarde beaucoup la croissance et les composantes parce que je trouve qu'on voit tout. Rappelez-vous, même sur ce plateau, on en a beaucoup parlé, vous parliez depuis 2 ans d'une récession aux États-Unis. Vous commenciez en disant quand la récession aux États-Unis. Là, c'est quand même incroyable de voir qu'en ayant une politique de taux de hausse qui était à peu près pareil que la BCE, même si on a commencé
plus tôt, cette question, la semaine dernière.
Vous avez un écart de plus d'un point. Deux prévisions de croissance, on est à 0,9 pour la zone euro, on est à 2% pour les États-Unis, avec l'investissement des entreprises qui se maintient et qui perdure, alors qu'il s'effondre en zone euro.
Jean-Marc Daniel a une réponse pour ça.
J'imagine qu'il a une réponse.
C'est le déficit budgétaire, alors, c'est 2000 milliards d'euros.
Avec 8% de dollars de déficit budgétaire, c'est facile de doper le moteur aussi.
Exactement.
Oui, mais complètement avec la politique budgétaire, mais par contre, c'est assez intéressant de regarder les composantes de l'investissement. Et moi, j'aime bien regarder les données historiques sur 100 ans, parce qu'en fait, l'économie, ça se reproduit tout le temps, donc c'est assez facile, on a juste la réponse dans le passé. Et là, ce qu'on voit, hein, par rapport à ce que vous dites sur, oui, en effet, il y a du déficit, il n'y a pas de débat, mais c'était le cas après 2008, crise du Covid aussi, on a eu énormément d'injections, donc on connaît, c'est que l'investissement des entreprises tient, en partie, parce que justement, cette épargne des ménages, hein, qui est à 4% et qui a toujours été très faible aux États-Unis, finance beaucoup plus l'économie, mais l'économie productive. On dit l'IRA, pas d'impact, etc. Pour l'instant, macroéconomiquement, etc., c'est rien. Qu'est-ce qui se passe ? On a un pays qui est complètement désindustrialisé, qui, avec ses politiques de subvention à la louche, hein, tout à fait, veut justement attirer des entreprises et être leader vraiment dans l'énergie, parce qu'il a bien compris, bien sûr, pour s'émanciper de la Chine, mais aussi au niveau industriel. Et donc, les emplois et l'investissement qui est créé, il est productif il est dans l'industrie. Et quand vous regardez justement la productivité États-Unis versus zone euro, il y a de la productivité aux États-Unis qu'il n'y a pas en zone euro. Donc, c'est ça la grande différence.
Jean-Marc, les États-Unis, bon, l'Europe, a priori, ça a l'air d'être, j'espère, on va baisser les taux avec 9 mois de retard, mais en juin. Vous pensez qu'aux États-Unis, je vous ai nommé ministre de l'économie en France, vous êtes patron de la Réserve fédérale, vous baissez les taux malgré l'inflation ?
Mais je baisse les taux parce que déjà, le financement du déficit budgétaire est tel que, quand vous regardez les missions de la Réserve fédérale, on parle d'inflation, on parle de plein emploi, mais le véritable enjeu, c'est de maintenir des taux d'intérêt pour éviter que l'État n'ait une charge de la dette trop importante. 2 000 milliards de déficit budgétaire tous les ans, 20 000 milliards d'augmentation de la dette, 8% du PIB en déficit budgétaire. Donc, vous avez forcément de la croissance. Et donc, j'essaie de baisser les taux, effectivement, pour limiter la casse sur les finances
publiques. Mais vous, si vous baissez les taux, vous relancez l'inflation un peu?
J'espère, effectivement. Non, parce que, effectivement, l'inflation est une inflation, comme on l'a dit, c'est le prix de l'énergie et les taux, assez peu d'influence là-dessus. C'est le prix de la main-d'œuvre, et je maintiens, vous avez de plus en plus de main-d'œuvre qui est importée indirectement au travers de la concurrence. Je pense, effectivement, qu'il y a des enjeux, mais là, le FMI vient de dire que l'intelligence artificielle n'en verrait pas la gain sur la productivité dans les 10 ans qui viennent. Il faut attendre.
Ce qui prouve qu'il devrait l'utiliser un peu plus eux-mêmes.
Sais que l'opinion que vous aviez sur le FMI qui est encore peut-être plus négative que celle sur la BCE. Et pourtant, c'est difficile. Mais et puis il y a un élément qui est un élément. Enfin, quand même, les États-Unis, il faut voir ce que c'est. C'est devenu. C'est là aussi, c'est ce que dit Trump. En fait, les États-Unis, c'est des capitaux européens et japonais qui font travailler dans des usines les Mexicains qui sont installés sur nos territoires. Il y a un moment où il faut effectivement que les États-Unis retrouvent un esprit qui soit un esprit où on épargne, qui soit un esprit où effectivement on fasse davantage d'appel à l'épargne et non pas au déficit budgétaire.